Les séminaires du Collège de France.
Mesdames, Messieurs, pour moi, c'est pas seulement, comme on dit toujours, un honneur, un plaisir, mais c'est plus que ça, de pouvoir avoir ici, entendre et partager quelques minutes avec le professeur Carlo Ossola, qui a été ici professeur au Collège de France, titulaire de la chaire en littérature moderne de l'Europe néo-latine de 1999 à 2020. Aujourd'hui, il est président de l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, qui est l'institution culturelle italienne la plus importante et prestigieuse, et qui, entre autres, édite, rédige et veille à la continuation de l'Enciclopédie italiana Treccani. On le dit toujours, et c'est vrai, c'est une personnalité qui n'a pas besoin d'être présentée, d'autant plus ici, sa maison. Je tiens seulement à dire, vous voyez, il a terminé son activité ici il y a 6 ans, mais depuis, il a publié beaucoup plus que la plupart de nous avons publié depuis, c'est-à-dire d'abord sa leçon de clôture prononcée le 9 décembre 2020, je m'en souviens très bien, de la période de la Covid, qui s'appelle NEUD, figure de l'essentiel. Il a publié en 2021 Les 100 mots de Baudelaire. Il a publié l'édition bilingue de la Comédie de Dante à la Pléiade, 2021. Aux belles lettres, La vie simple, les vertus minimes et communes, 2023. Et il vient de publier l'année dernière un livre assez étonnant, Entrer sans frapper. Il s'agit d'un livre d'abord de photographie qui raconte, par images et par mots, les bourreaux que le professeur Ossola occupait au collège. Dans ce livre, on lit ce propos, seuls les livres nous donnent la liberté d'entrer sans frapper, de bénéficier de leur amitié, de leur intimité. Les bureaux 16 du Collège de France nous a tous réunis pour fêter chaque jour et chaque page les privilèges d'être homme, pour retrouver notre dignité, les besoins universel que les livres accueillent et renouvellent. Et donc, il définit ce livre en livre pour des chemins d'avenir. Alors, le bureau 16, c'est le bureau voisin proche de celui que j'occupais et que j'occupe aujourd'hui. Et je ne peux que regretter que cette possibilité de conversation, je frappais avant d'entrer, ça, faut le dire, ce soit interrompu. Mais les derniers mots, c'est un livre pour des chemins d'avenir, me réconforte. Surtout, je pense que les livres que Carlo Ossola ne manquera pas de publier dans le futur vont nous permettre de renouer avec son érudition et surtout avec son humanité. Et donc, je vous remercie beaucoup d'être ici ce soir.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, cher Dario Mantovani, je suis heureux et reconnaissant d'avoir été associé à une réflexion si importante qui va au cœur de la pertinence et de la justesse des mots que nous employons pour nous définir dans la société que nous formons. Je me suis donné une tâche difficile, je l'avoue, et je compte sur votre bienveillance. Il s'agira d'un dossier que j'ouvre avec vous. Vous voyez, c'est un vrai dossier. Plutôt que d'une thèse dont je fournirai les arguments et la conclusion. Pour rendre plus évident évidente la base de ce dossier, j'ai choisi un chemin radical dont le titre témoigne. Mais souvent, c'est à partir de positions paradoxales que l'on peut mieux saisir la doxa, c'est-à-dire l'opinion commune. Parce que le problème, dans le fond, est le suivant, vous le savez bien, est-ce qu'on peut imaginer un juge, le droit, la loi, qui peut être mobile et, je dirais, assujetti à la translation, c'est-à-dire au chemin métaphorique. Nous avons toujours l'idée qu'il faut, pascalienne, qu'il faut avoir un point fixe pour en juger. Alors, où est-il ce point fixe ? Commençons par une injonction qui ne laisse pas de doute, et je cite. « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. » C'est le verset parallèle chez Matthieu 7 et Luc 6. Il y a pour toute une tradition chrétienne sous un horizon apocalyptique, qu'un seul juge et un seul jugement à la fin des générations des séculats. Car l'homme, en tant que tel, ne connaît pas les profondeurs du cœur et des intentions. Encore une fois, dans l'Ancien Testament, Ésaïe, « Mes pensées, c'est Yahvé qui parle, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. » Il y a une discontinuité radicale et on ne peut pas passer d'un côté à l'autre. Du reste, la Divine Comédie qui se veut écrite sub specie eternitatis, c'est-à-dire à partir de la fin, nous présente des papes aux enfers et des païens au paradis. Puisque, encore une fois, ici c'est la lettre aux Romains, je cite, « Ces jugements, c'est-à-dire les jugements de Dieu, sont insondables et se voient impénétrables. » Romains 11. De plus, le scandale du Christ jugé et condamné, quoique innocent, pèse sur la légitimité du jugement humain. Et en effet, c'est toujours la lettre aux Romains. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Nous n'avons pas de liaison substantielle entre notre manière d'émettre des jugements et la pensée qui est sous-jacente aux intentions divines. Les textes des évangiles ne définissent point la nature du jugement, mais simplement le fait qu'il n'y a, et nous le verrons, qu'un seul justus iudex. J'emploie déjà la formule qui va nous occuper pendant ce cours, c'est-à-dire le fait que le titre que j'ai donné à mon exposé, Iudicium Iudicare, qui est parallèle à Iustux Iudex, s'inscrit dans cet horizon sémantique. Dans son cadre rhétorique, il s'agit bien d'une derivatio étymologique, Iustus Iudex ou Iudicium Iudicare, qui vise à renforcer un concept en le répétant dans sa racine, en le rehaussant à l'intérieur d'une, j'utilise le terme du Moyen-Âge, d'une ipséitas. On ne peut pas sortir du même si on veut dire le même. Donc la force qui est dans un en soi. Et on ne peut pas sortir de cela, en tout cas pour Dieu. Qui, cette ipse eitas qui ne prévoit aucune translation. On ne peut pas métaphoriser Dieu, le seul justus iudex. Je suis celui qui suis, ou je suis celui qui est. Mais là aussi, il y a une répétition de l'ipse eitas. Alors, je voudrais prendre deux exemples qui vont dans cette direction, et tout d'abord voir la différence entre le texte grec et le texte latin de ce verset de l'évangile de Jean. Jean 7, 24, pour l'instant je cite le paragraphe en français, mais on viendra au texte grec et latin. 7, 24, « Cessez de juger sur l'apparence, kataopsin, hein, par la vue, jugez selon la justice. » Et il se réfère, donc le Christ se réfère à soi-même, et le voilà qui parle ouvertement sans qu'il lui dise rien. Est-ce que vraiment les autorités auraient reconnu qu'il est le Christ? C'est-à-dire, c'est une manière de parler avec une telle autorité qui ne permet pas d'opposition. C'est l'une des rares fois où, dans les évangiles, la parole du Christ n'est pas contrastée. Il y a une évidence et une présence. Mais cette formule, et après nous reviendrons sur cette force, a une petite différence dans le texte latin par rapport au texte grec. Le texte latin, comme je l'ai dit, est un texte tout à fait clair, « judicium judicate », alors que le texte grec dit « mécrin était kataopsin ». Ne jugez pas par vos yeux, par l'impression, par le phénomène, par le visible, « alla ten dikaian krisin krinate ». Alors il y a un verbe, plutôt surprenant d'une certaine manière, parce que d'un côté vous avez l'adjectif dikaiand, qui vient de dike, la justice, et de l'autre part le verbe n'est pas le verbe entre guillemets identique comme judicium judicate, mais krinate. Alors krinate vient de crino, crisis, par exemple, latin cerno, cribrum, c'est-à-dire le tamis, et signifie séparer, disjoindre, distinguer, ou alors diviser, discerner, différencier. Nous avons, et ça c'est la spécificité du grec, on pourrait aller très loin dans cette discussion, je m'arrête simplement au problème. Dans le grec, quand vous dites il faut évidemment utiliser le tamis, c'est qu'il y a une réalité présente et que cette réalité présente peut être séparée et distinguée. Et donc, il y a dans cette formule séparée, le juste de ce qui n'est pas juste, c'est krinate ten dikaian. Ce n'est pas le même terme. Séparer ce qui est droit par rapport à ce qui n'est pas bon. Alors là, le jugement humain a toute sa pertinence, d'une certaine manière. Et c'est quelque chose qui s'exerce face à une multitude, plus que deux, en tout cas, deux ou plus que deux, d'objets présents. Encore que, dans les évangiles même, quand il s'agit vraiment de séparer, de distinguer, le verbe du Christ est toujours très prudent, laisser que la bonne semence, que le grain pousse avec les mauvaises herbes, et ce sera à la fin qu'on fera la distinction. Il ne faut pas séparer au commencement, parce qu'on risque de déraciner aussi la bonne semence, le grain, le blé. Et encore une fois, il y a évidemment une tension profonde dans cet appareil linguistique et surtout ce passage du grec au latin. Pour le latin, après, il n'y aura toujours que cela, sauf un cas que j'évoquerai à la fin, mais il y aura seulement ce contexte sémantique judicium, judicare, iudex, justus. Il n'y a plus, en tout cas dans la tradition de la Vulgate, l'équivalent de crino, c'est-à-dire cerno. Je n'ai pas trouvé de cernite justum. Et c'est un élément très important parce que la force de la métaphysique qui naît de cela et qui va continuer pendant des siècles jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à Saint Thomas, etc., est faite aussi par ce redoublement qui ne permet pas d'autres éléments parallèles. Et il n'y a pas une pluralité sémantique, tout est là. Il n'y a pas une possibilité d'avoir des synonymes quand on parle d'une vérité qui s'affirme dans son ipseitas. Là aussi, nous verrons que dans les siècles suivants, le problème s'aggrave et il faudra y penser. D'autre part, dike, c'est-à-dire krinate krisin dikaian. Donc là aussi, le grec répète krinate krisin. Mais c'est une krisin dikaian, c'est-à-dire qui vient de la justice. Et les vocabulaires s'accordent pour dire que dike vient de deiknoumi. Deiknoumi, c'est montrer, exhiber, faire voir, d'où par exemple echeomo, exercer la justice, c'est montrer l'évidence, echeomo, mais aussi accuser, prouver par un procès, et effectivement, là nous avons quelque chose qui nous dirait, si on veut faire une paraphrase plus large, juger par un choix capable de faire voir une évidence qui ne peut pas être discutée. Et le texte grec. Donc il y a cette tension, tandis que le texte latin est direct, judicium judicate, sans passer par l'apparence de l'opsis. Retenons cette tension parce qu'elle va nous orienter pour la suite. Mais pour comprendre mieux le texte latin, c'est-à-dire le fait que le texte latin des évangiles, toujours autour du jugement, nous oblige à rester, pour ainsi dire, dans une identité forte. Je voudrais d'abord prendre, et puis je reviendrai à judicium judicate, un élément qui est devenu, pendant ces années récentes, très mieux connu grâce à une lettre apostolique du pape François. C'est-à-dire qu'au moment de la Pâque juive, le Christ dit « Desiderio desideravi, hoc Pascha manducare vobiscum antequam patiam. J'ai désiré de tout mon désir, c'est la formule est la même au point de vue sémantique, desiderio, desideravi, j'ai désiré de tout mon désir de pouvoir célébrer Pâques avec vous avant que je sois soumis à la passion. Eh bien, dans la tradition des commentaires à ces évangiles, nous trouvons par exemple un auteur du Moyen Âge allemand, Gerous de Reichsberg, qui dit clamavi id est vehementer desiderio desideravi ita ut fortissimum desiderium meum quasi vocis clamose importunitate. Donc j'ai désiré ardemment fortissimum desiderium avec un désir très fort presque avec la inopportunité d'un cri qui s'élève de la scène. Les commentateurs soulignent la force de ce desiderio desideravi. Mais dans la lettre, qui est une lettre moins connue du pape François, parce qu'elle est consacrée à la liturgie, il y a dont le titre est simplement Desiderio Desideravi. C'est un texte qui est passé un peu inaperçu. Eh bien, il y a un passage important où le paragraphe 45, je prends la traduction française, qui nous porte au cœur de notre problème. Le pape François dit au paragraphe 45 « Ainsi, la question que je veux poser est la suivante. Comment pouvons-nous redevenir capables de symboles ?» Voilà, ça c'est le problème que nous devons aborder quand nous parlons sérieusement de la parole justice. Est-ce que c'est une réalité politique, tactique, exprimée par des lois, ou c'est un symbole? C'est-à-dire quelque chose capable de réunir, de ramasser et de rassembler. Et la question qui est posée est justement là. C'est une question qui remonte à toute une tradition qui a été bien interprétée par Karl Rahner, mais qui a une tradition très très longue. Tout l'héritage du Moyen Âge est là. Sommes-nous capables de rester ou d'adhérer ou de forger des paroles symboles, c'est-à-dire capables de mettre ensemble, de ramasser et réunir? Et il continue, comment pouvons-nous à nouveau savoir les lire et être capables de les vivre? Et il dit que cette expérience de la liturgie est efficace en soi, ex opere operato. Là aussi, vous voyez la répétition « ex opere operato », on ne peut pas dire autre chose. On est obligé, là je fais une paraphrase d'un très beau livre d'Umberto Eco. Umberto Eco pense à toutes les difficultés de la traduction en disant presque la même chose. Le titre est presque la même chose. Mais dans ce cas spécifique, ex opere operato, desiderio desideravi, judicium judicare, il faut enlever le presque. On n'est pas autorisé à rester dans le flou. Ex opere operato signifie, hein, c'est la nature même du symbole, que le geste devient la chose, à l'identique. Et c'est la force même de quelque chose qui se transforme et qui n'a pas besoin d'autres gloses, parce qu'il est là, hein, l'évidence de cet ex opere operato. Et il dit, à la fin de ce paragraphe magnifique, « Une lecture symbolique n'est pas une connaissance purement intellectuelle, ni l'acquisition de concepts, mais plutôt une expérience vitale. » C'est-à-dire, nous touchons, et nous adhérons, nous sommes là. Hein, et c'est précisément ce que cette tradition classique nous a légué par l'idée même de symbole. Alors, évidemment, ce desiderio, desideravi, nous porte au cœur d'une tradition classique. Il n'y a pas que les textes évangéliques, bien sûr, le texte de Jean est le texte d'un vrai écrivain. Mais il faut rappeler que dans la tradition romaine, de plus en plus, plus ou moins à l'époque où le christianisme s'affirme, ces exigences se font fortes et très évidentes. Il y a une magnifique lettre, la lettre 71 de Sénèque à Lucilius, qui nous dit précisément le même concept. C'est comment vivre digne du bien souverain. Hein, c'est finalement une très belle lettre autour du bien souverain. Et il dit, nous avons en nous deux parties. L'une est non rationnelle, irrationalis, qui brûle et qui souffre. L'autre, altera rationalis, est dans la raison et elle vit de concepts qui ne peuvent pas être ébranlés. Intrepida est et indormita. On peut pas, n'a pas peur et on ne peut pas la soumettre. In hac, dans cette partie-là, qui obéit à la raison, positum est summum illud hominis bonum. Là, il y a le bien souverain qui est propre de l'homme. Et quand ce bien souverain a rempli toute la surface humaine, eh bien, immota illi stabilitas est. Le signe du bien souverain est le fait de la stabilité. On ne sort plus du concept. Ce concept étant le bien souverain qui, il nous dit juste avant, manet autem. Quand nous avons trouvé la perfection, l'équilibre de notre statut humain, manet. On est dans la stabilité. On ne peut plus sortir. Nous n'avons plus besoin de métaphores. Nous sommes là. Alors, il y a toute une tradition, bien sûr, qui n'a pas beaucoup d'autorité, mais les traditions se respectent. Le Moyen-Âge a rêvé d'un Sénèque chrétien. Et on voit bien comment ces deux types de pensées qui misent sur la force d'une évidence qui n'a pas besoin de sortir de soi-même sont proches. Et cette lettre, il faudrait la lire complètement, mais nous n'avons pas le temps. Nous devons cet après-midi terminer à 17h30 et je le ferai. Mais je vous prie de la lire parce que c'est un texte très beau, un latin magnifique et surtout, Sénèque s'acharne à montrer que le bien souverain est celui qui est le plus près de nous. Il ne faut pas trop nous monter, il ne faut pas trop descendre. Il est là et il dit « Unum bonum esse quod honestum ». Le bien fondamental, l'essentiel, « unum bonum », est simplement l'honnêteté. Il essaye de trouver une base commune pour tous les hommes, pas héroïque, qui n'est pas faite pour exclure, mais pour intégrer. Et nous verrons ça aussi à la fin de mon exposé. À partir de... Dans cinq minutes, je commencerai à faire le va-et-vient entre le possible et l'impossible de cette définition conceptuellement axée sur elle-même. Alors, immota stabilitas. Et juste un peu plus loin, il nous dit que le bien est un seul, c'est la vertu, et qui est établie dans notre partie rationnelle. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est que la vertu? Quid erit ec virtus, judicium verum et immotum. Le vrai jugement est immotum, ne bouge pas, il est là. Judicium verum et immotum. Alors, vous voyez que nous sommes dans cette idée de Sénèque, au cœur même, il y a d'autres passages précédents chez Cicéron, mais moins radicaux que la force de cette pensée de Sénèque. Mais déjà, Cicéron avait commencé cette réflexion sur la nécessité d'avoir une stabilité conceptuelle pour ce qui est juste, pour ce qui est bon et pour ce qui est vrai. Du reste, les trois vont converger. C'était du reste la force. La force qui arrive jusqu'à Dante, les quatre vertus et les trois vertus théologales, mais d'abord il faut avoir ce que Dante appelle lui-même, en citant bien sûr, appelle la firmitas de ces quatre vertus qui constituent le carré fort de la constitution de l'humain durable. Qu'est-ce qu'il arrive après Sénèque? Où allons-nous trouver cette immota stabilitas, ce jugement vrai, inébranlable, célébré par ce philosophe? Il faudrait donc disposer d'une identité stable, invariable de l'humain, à laquelle appliquer une clarté parallèle ou symétrique, immuable des lois. Il faudrait pouvoir afficher l'un des emblèmes les plus célèbres de la Renaissance, Semper Idem, toujours le même, qui a une diffusion immense en Europe au XVIe et au XVIIe siècle. Une définition d'identité pareille nous consolerait. La cohérence, la constance, la conscience de soi, quelle meilleure définition? Le problème, toutefois, est précisément dans cet idem, le même, puisqu'à la limite, en continuant à être toujours le même, à répéter « semper idem », on arriverait à la tautologie parfaite. Donc, je commence à, si vous voulez, aller d'un côté et de l'autre. a essayé de mettre en évidence les apories. Très bien, semper idem, mais si on pousse à l'extrême ce semper idem, nous serions finalement dans la parfaite tautologie, c'est-à-dire dans la répétition d'instants immuables et uniques qui demanderaient d'être rappelés à l'identique sous une même forme d'action-souvenir, parce qu'il faut mémoriser à l'identique ce que nous venons de vivre, etc., en saturant ainsi la mémoire et le possible, comme l'apologue de Borges nous le dit, « funes el memorioso ». Quelqu'un arrive à mémoriser tellement bien une journée qu'il a vécue qu'après il ne fait que répéter cette journée. Alors, il faut maintenant discuter à fond que signifie identique. Prenons le dictionnaire de l'Académie française et ce dictionnaire nous montre bien la tension autour du terme identité et autour de ses prédications. C'est l'édition récente de l'Académie qui nous donne une origine au XIVe siècle, identité, empruntée du bas latin identitas, qualité de ce qui est le même, dérivée du latin classique idem, le même. Et puis il y a trois possibilités de signification. Premier est exacte ressemblance entre des êtres, des choses qui ont une existence distincte. Deux, caractère de ce qui ne fait qu'un. Vous voyez déjà un peu la différence. L'une est exacte ressemblance. L'autre, caractère de ce qui ne fait qu'un ou ne constitue qu'une seule et même réalité sous des manifestations, des formes ou des appellations diverses. Et là, nous aurions une possibilité synonymique. On est dans l'identité qui peut être exprimée par des synonymes. Et dans la logique, principe d'identité signifie principe d'évidence selon lequel une chose ne peut être que ce qu'elle est. Donc on ne peut pas aller au-delà de l'évidence qui montre, fait voir ce principe d'identité. En algèbre, relation d'égalité entre deux termes qui subsistent, quelles que soient les valeurs attribuées aux variables. Et le troisième, le plus fort, caractère de ce qui, dans un être, reste identique, permanente et fonde son individualité. Si on passe du premier au troisième, on voit la différence. On entre et on sort de la synonymie. Et le troisième, caractère au sens de caractère, d'impression de quelque chose qui ne peut pas changer, qui reste identique, permanente et fonde son individualité. Il faut rappeler cela parce que c'est l'un des termes qu'il faudra discuter. L'identité, donc, oscille entre le besoin du pluriel pour reconnaître les traits communs entre sujets distincts et la quête de quelque chose qui ramasse en égalité. Donc, d'un côté, le besoin du pluriel pour sélectionner les traits spécifiques, les traits communs, mais d'autre part aussi la quête de ce qui peut nous unir en égalité. Nous voyons donc tous les risques d'une identité forte qui se répète. D'un côté, nous ne serions dans la suite des années que des multiples de nous-mêmes ou alors des matriosques en gigogne où se superposent et se dénouent dans un sujet quelconque ce qui est propre de l'enfance ou ce qui tient de la vieillesse. On va les enlever les uns après les autres ou les entasser les unes sur les autres. C'est en effet un risque qu'il faut prendre en charge quant à l'idée de semper idem que j'évoquais tout à l'heure. Mais je voudrais ajouter le témoignage de notre auteur, en tout cas d'un auteur qui a marqué ma génération, et spécialement d'un livre, Roland Barthes par Roland Barthes. Vous voyez, Roland Barthes par Roland Barthes. Déjà, maintenant, comme nous sommes à l'intérieur d'une discussion sur ce semper idem, Roland Barthes par Roland Barthes sonne un peu différemment. Et l'objet Roland Barthes par le sujet Roland Barthes, mais est-ce qu'on peut distinguer ? Eh bien, les premières pages, vous vous en souvenez, sont magnifiques, sont pleines de photos et de légendes. Et Barthes s'interroge, est-ce que j'étais vraiment ça ? Ah, le souvenir de ça, Bayonne, Bayonne, etc. Vous vous souvenez, hein ? Ou alors le pays d'Urt, et d'où vient cet air-là ? Là, je cite, la nature, le code, ce sont des interrogations de Barthes, et enfin, il conclut, vous êtes le seul, vous, hein, vous lecteur, moi auteur, vous êtes le seul à ne pouvoir jamais vous voir qu'en image. Vous ne voyez jamais vos yeux. Même et surtout, pour votre corps, vous êtes condamné à l'imaginaire. Vous êtes condamné à l'imaginaire. Une photographie, donc, plusieurs photographies de plusieurs années, ne suffisent pas à définir notre identité. On aurait presque envie d'en déduire que l'identité est plutôt un postulat qu'une réalité. Et là, évidemment, nous devrions encore faire tout un raisonnement qui s'applique à nos disciplines. Finalement, la partie forte de ce que nous professons est plutôt un postulat qu'une réalité. Reprenons le dictionnaire de l'Académie dans son Editio Princeps de 1694. Là, l'identité est définie ce qui fait que deux ou plusieurs choses ne sont qu'une même. Deux ou plusieurs choses ne sont qu'une même. Cela n'est en usage que dans le dogmatique, le dictionnaire. Nous dit, si nous avons la prétention d'imaginer que deux choses sont la même, on entre dans le dogmatisme. Sous-entendu, deux choses ne peuvent jamais être la même. Il y aura une petite fissure, il y aura une bribe, il y aura une petite trace différente. Hein, pensons à la lecture du nom de Italo Calvino dans son Palomar. L'onde ne se répète jamais de la même manière. C'est une définition qui demanderait vraiment une très très longue discussion, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est le dictionnaire même qui dit, quand vous prétendez que deux objets qui semblent identiques le soient vraiment, c'est du dogmatisme. Et donc, l'identité serait plutôt un postulat qu'une réalité. Cette définition est le fruit d'un long processus philosophique et on serait tenté d'y ajouter dans l'ère de ce temps-là, dans l'ère du temps de Pascal et de la querelle avec les jésuites, la question du probabilisme et du probabiliorisme qui a dicté le contexte philosophique des provinciales. Mais évidemment, le dictionnaire de l'Académie fait état de cette querelle. On ne peut pas avancer facilement dans l'identité. Mais surtout, derrière ça, il y a Montaigne. Et nous verrons que la pensée de Montaigne présente un radicalisme qui a demandé tout de suite des corrections, et nous essayerons de les voir. Dans l'apologie de Raymond Sebon, Montaigne observe, c'est l'une des parties les plus radicales, « Il n'y a rien qui demeure, ni que soit toujours un. » Rien. Ce qui souffre mutation ne demeure pas un même, et s'il n'est pas un même, il n'est donc pas aussi. Ainsi, quand l'être tout un change aussi l'être simplement, devenant toujours autre de nôtre. Nous sommes toujours un autre de nôtre. Vous voyez à quel point Montaigne, bien avant le dictionnaire de l'Académie, bien avant les provinciales, a radicalisé le problème. Nous sommes toujours un autre de nôtre. Et donc, le même ne peut même pas être prononcé, pour ainsi dire. Car c'est chose mobile que le temps, et qui apparaît comme un ombre, avec la matière coulante et fluente toujours, sans jamais demeurer stable ni permanente. Finalement, il n'y a aucune constante existence, ni de notre être, ni de celui des objets. Ce n'est pas seulement notre corps qui change, mais les objets aussi, et notre perception des objets. Et ainsi, il ne se peut établir rien de certain de l'un, c'est-à-dire de nous, et de l'autre, les objets, et le jugeant et le jugé sont en continuelle mutation et branle. Et le jugeant et le jugé. Et alors, c'est ici que nous allons aborder, oui, on a encore un peu de temps, la deuxième partie de mon exposé, c'est-à-dire le fait que le jugeant et le jugé sont constamment en branle. Parce que nous avons toujours l'idée, reçue du reste, mais il faut discuter aussi les idées reçues, que ce qui est mutable, c'est la personne qui est jugée, alors que le juge représente la partie stable, hein, la stabilitas de Sénèque, la partie stable de ce duo. Tandis que Montaigne nous dit que le jugeant et le jugé sont demeurent jamais stables ni permanents. Et finalement, il n'y a aucune constante existence ni de notre être, ni de celui des objets. Et le jugeant et le jugé sont en continuelle mutation et branle. Cette position est si radicale et que je me suis amusé, mais je ne vais pas vous infliger tout ce dossier que j'avais préparé. Vous voyez, ça fait à peu près 140 pages. Mais je vous dis le présupposé. Montaigne a été si radical et si fondamentalement attentif à pousser les conséquences de sa position jusqu'au bout, que même les auteurs de la contre-réforme ont dû nécessairement, pour pouvoir appliquer les principes établis par le Concile de Trente, réétablir une espèce de vérité plus solide que le monde que Montaigne mettait sur scène. Et je ne citerai, je vous fais l'économie, mais je cite au moins les auteurs, de Alessandro Calamato, de Messine, l'amphithéâtre sacré de Bassiano Catenago de Lodi, ou alors Onofrio Zarrabini da Cotignola. Et je m'arrête seulement sur l'auteur le plus important de cette tradition, c'est-à-dire un prédicateur très important de la deuxième partie du XVIe siècle, Cornelio Musso, lequel, tous ces auteurs, je les cite parce qu'ils ont au moins un sermon sur Judicium Judicate. Hein, j'ai pris seulement les sermons concernant le Judicium Judicate. Eh bien, Cornelio Musso dans le carême, a un sermon sur cette nature. Nolite judicare secundum facem, sed rectum judicium judicate. Donc, toujours Jean 7, 24. Mais quelle est la. Je le cite d'abord en italien, puis je traduis. Mais quelle est sa remarque? Au lieu de dire que, comme nous l'avons vu, et comme la plupart des commentateurs le font, le justus. Judex est un seul, et donc il faut rester à cela. Il dit au contraire, il faut avoir devant nous le tribunal de la raison. Abbi innanzi il tribunale della ragione col testimonio della coscienza. Le tribunal de la raison avec le témoignage de la conscience, pardon. On n'attendrait pas d'un prédicateur de la contre-réforme une affirmation de ce type-là qu'on serait porté plutôt à attribuer à l'époque des Lumières, je ne sais pas, à Beccari ou Condorcet ou Voltaire. Non. Il est obligé lui-même de faire appel à cette espèce de tribunal avec le double témoignage de la conscience face au juge qui est représenté par la raison. Le tribunal de la raison avec le témoignage de la conscience. Parce qu'autrement, on va dans une espèce d'effritement généralisé sur lequel on ne peut rien fonder. Je le dis, je résume très mal les arguments magnifiques d'un livre passionnant de Bruno Neveu, L'erreur et son juge, publié en 1993 à Naples, en français bien sûr, qui avait comme une thèse fondamentale le fait que dans les procès de l'Inquisition, comme on devait persuader l'accusé de la vérité de ce que l'accusé avait abandonné, on lui donnait, plus que dans les tribunaux laïcs ou séculaires, on lui donnait toutes les possibilités, ou plus de possibilités, de changer d'avis. Donc le travail de persuasion, bien sûr, il y avait les traits de corde, mais ça c'était égal d'un côté et de l'autre. Mais il y avait tout un appareil de persuasion et aussi un appareil de défense de la part de l'accusé, plus subtil, parce que précisément, et l'échec le plus grand aurait été que l'accusé se confirme dans son erreur. Ça aurait été un échec total du fait que la vérité n'aurait plus été reconnaissable. Alors inutile d'entamer un procès si la vérité n'est plus reconnaissable. Mais il faudrait avoir ici Bruno Neveu pour faire sortir la finesse et la subtilité de ces argumentations. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment critique, le besoin de faire reconnaître la vérité établit un critère où la raison redevient fondamentale. Et je n'ai jamais trouvé au XVIe siècle une définition plus belle que celle que Cornelio Musso nommait devant pour tenir, pour ainsi dire, l'appareil de la reconnaissance de la vérité. Il y aurait d'autres citations, mais le temps passe et je veux venir à ce qui m'a le plus frappé. Il serait évidemment réconfortant d'introduire ici, de peur qu'il n'y ait plus de loi, la mesure de la raison invoquée par Cornelio Musso et par Bruno Neveu, mais il faut avouer que le champion même de la raison, R majuscule, Voltaire, nous montre un autre champ aporétique. C'est l'un des passages les plus troublants de Voltaire, que j'adore parce qu'on ne le trouve jamais là où on le cherche. C'est un homme qui a une mobilité intellectuelle qui est vraiment stimulante. Alors, ce champ aporétique, nous le trouvons pour notre question dans l'entrée « identité » dans son dictionnaire philosophique. C'est comme ça qu'on appelle toutes les entrées de Voltaire dans l'encyclopédie. Je le cite, « Ce terme scientifique, identité, ne signifie que même chose. Il pourrait être rendu en français par mêmeté. » Il ne veut pas, c'est une subtilité de théologien, il ne veut pas invoquer l'ipséitas du Moyen-Âge, parce que ça appartient à Dieu, mais il invente ce néologisme mêmeté. L'identité, en réalité, serait une mêmeté. Ce sujet est bien plus intéressant qu'on ne pense. Et puis, il tire tout de suite en même temps un exemple et une conséquence. On convient qu'on ne doit jamais punir que la personne coupable, le même individu et point un autre. Mais un homme de 50 ans n'est réellement point le même individu que l'homme de 20. Il n'y a plus aucune des parties qui formaient son corps. Et s'il a perdu la mémoire du passé, il est certain que rien ne lie son existence actuelle en une existence qui est perdue pour lui. On le voit en tout cas en Italie avec le retard des procès, et ces jours même, on est en train de faire un procès à quelqu'un ou plusieurs pour un délit qui a eu lieu il y a 20 ans. On n'est plus les mêmes. On a oublié Voltaire. Sur qui on exerce le jugement? C'est pourquoi, du reste, toute une tradition classique supposait que la punition devait être immédiate au même moment où le délit était aperçu. Mais Voltaire nous dit « faites attention parce que on n'est plus les mêmes ». Et donc, quel est le sens d'une prison à vie? Non seulement il ne faut pas tuer les hommes, la peine de mort est brutale et inutile, mais il ne faut pas non plus condamné à vie, parce que celui qui a fait le délit à 20 ans ne sera plus le même à 50 ans. Et donc, ce sera une autre personne qui paye et une autre personne qui n'a plus la conscience ou la mémoire de ce qu'il était. Alors, il met en crise profondément l'idée même d'identité possible. Vous n'êtes, et il termine, le même que par le sentiment continu, de ce que vous avez été et de ce que vous êtes. Vous n'avez le sentiment de votre être passé que par la mémoire. Et ce n'est donc que la mémoire qui établit l'identité, à savoir la mêmeté de votre personne. Nous pourrions conclure que le sujet qui purge sa peine n'est plus, après 10 ou 20 ans, le même homme qui a commis le crime au nom duquel il est puni. Et il continue, et s'il a perdu la mémoire du passé, il est certain que rien ne lie son existence actuelle à une existence qui est perdue pour lui. Vous n'êtes le même que par le sentiment continu de ce que vous avez été et de ce que vous êtes. Vous n'avez le sentiment de votre être passé que par la mémoire. C'est donc la mémoire qui établit l'identité, la mémoire donc qui fait la mêmeté de votre personne. Nous pourrions ajouter que cette mémoire est constamment rétrospective et ne garantit aucunement une identité pour l'avenir. Du reste, là je vais abréger, j'avais tout un paragraphe, mais je vais le résumer. Ceci est tellement vrai qu'aujourd'hui, notre mémoire, en réalité, est assurée par des instances externes à nous, par une manière de ramasser les informations qui nous concernent dans des mémoires collectives gérées par autrui. Et donc, notre identité, aujourd'hui, est soumise à un contrôle extérieur qui est pire que la prison, hein, parce que nous, la prison, au moins, a quatre murs et on sait où on est. Tandis que là, le contrôle de la mémoire que nous devrions avoir de nous-mêmes est aujourd'hui assuré par des instances invisibles et que nous ne contrôlons pas du tout. Alors, il y aurait évidemment toute une discussion à faire, mais je vous fais l'économie parce qu'elle a une évidence qui ne demande pas d'être trop examinée dans notre cas. Mais je voudrais souligner que c'est l'un des textes les plus problématiques de Voltaire, qu'il faut prendre plus au sérieux qu'on le fait d'habitude. Il y a un Voltaire inquiet, profondément inquiet, ce passage est l'un des plus fondamentaux. Et qui revient du reste à une tradition classique, encore une fois, qu'on trouve chez les Latins. J'évoquais avant Sénèque pour la stabilité, mais prenons le prédécesseur de Montaigne, c'est-à-dire Marc Aurèle. Eh bien, Marc Aurèle, dans son Eisse Auton, nous dit, je le cite, « Tout est soumis au changement, et toi-même, tu es sujet à une perpétuelle modification et, sur certains rapports, à une destruction perpétuelle. Et l'univers entier est comme toi. » Ici, on a déjà l'anticipation des pensées de Leopardi. Il n'y a pas assez de travaux sur Leopardi, lecteur de Marc Aurèle, mais on le voit, il est là. L'univers entier est comme toi. Et encore, même avec cette hypothèse, ne va pas t'imaginer que dans ton être, cette partie solide et cette partie de souffle vital soient exactement encore aujourd'hui ce qu'elle était à l'époque de ta naissance. Ton être actuel, dans sa totalité, a puisé ce qu'il est aux aliments que tu as pris et à l'air que tu as respiré depuis 2 ou 3 jours peut-être. Donc, à chaque fois que nous avons un mouvement de respiration, nous introduisons des particules qui vont nous changer et la respiration même nous change et nous ne sommes plus ce que nous étions il y a 2 jours ou 3 jours. Donc, cette tradition forte, hein, qui va de Marc Aurèle à Montaigne, à Leopardi, nous confie à une incertitude de fond. Nous ne sommes garantis dans notre mêmeté, je reprends le terme de Voltaire, que par la mémoire personnelle et par la mémoire que la société a ou bâtie de nous-mêmes. Et cette identification et, ou cette perte d'identité, si nous voulons nous soustraire à la mémoire collective des databases, nous met dans une condition difficile, polaire, pour ainsi dire, qui est constamment en tension entre la conscience de soi. Nous devons avoir une conscience de nous-mêmes. Autrement, nous sommes expropriés par la conscience collective qui est confiée aujourd'hui à des mémoires collectives. Donc, d'un côté, la conscience de soi, mais d'autre côté, évidemment, aussi, nécessairement, la reconnaissance d'autrui. Notre collègue et ami Salvatore Vecca disait, finalement, nous vivons par les signaux que des agences de reconnaissance nous lancent à chaque jour. Mais le voisin qui vous dit bonjour, c'est une agence de reconnaissance. Il vous ignore, vous pouvez vous demander, est-ce qu'il est encore mon voisin? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai changé de visage? Etc. Nous vivons par la reconnaissance d'autrui aussi. Mais ça ne suffit pas, parce que nous devenons autrement totalement aliénés, c'est-à-dire établis in alio, et nous n'avons plus la mêmeté, la reconnaissance de nous-mêmes que nous devons avoir comme conscience de nous-mêmes. Quels seraient donc les traits pertinents d'un être qui varie constamment? Voilà la question que nous devons nous poser pour tout jugement, pas seulement pour un jugement de valeur. On pallie cette aporie en supposant des traits identitaires collectifs plus forts que les discontinuités individuelles. C'est ce que nous vivons maintenant. Les temps héroïques, un peu comme dans l'Odyssée, Ulysse a le droit d'interroger, quand il descend au royaume des morts, elle a le droit d'interroger les autres héros, il les reconnaît. Mais quand la multitude des morts sans visage, sans nom, sans histoire avance, il prend peur quand il voit mourir un écran, les milliers de morts qui avancent, et pour la première fois dans sa vie, il s'en va, il part, il se retire, il sort avec tous ses compagnons. C'est d'une modernité extraordinaire. Nous pouvons bien dialoguer, mais si ce dialogue n'a plus de visage, eh bien, on est dans une détresse terrible. Alors, nous pourrions évidemment dire que ces traits pertinents sont plutôt des traits qui appartiennent à une collectivité qu'à notre personne, et donc comment les critiquer, comment les distinguer, comment éventuellement les éloigner de nous-mêmes. Du reste, le grec nous montre que le terme « idiotès », c'est-à-dire « personne privée », hein, ce qu'on voudrait être chacun de nous, n'être qu'une personne privée, c'est aussi l'idion, hein, est devenu dans notre tradition l'idiot, encore une fois, c'est Leopardi qui le dit. Comment se fait-il que l'élogement de quelque chose qui était fondé sur soi-même est devenu un sens, et on le prend dans un sens si négatif, idiot? Et parce que, de plus en plus, Leopardi le dit, la civilisation tire à égaliar, ne fait qu'égaliser les gens. Et donc, de plus en plus, notre identité n'est plus celle de l'idiotesse, celui qui est fondé sur soi-même, sur son village, sur son pâturage, sur ses brebis, etc. mais est l'identité qui nous est prêtée par une mémoire collective et par la société. Et maintenant, dans ce parcours aporétique, nous ne faisons que passer d'une aporie à l'autre, je viens aux premières conclusions. Il y aura une deuxième partie. Il serait plus raisonnable de conclure avec saint Thomas d'Aquin dans sa Summa Theologiae, à l'article où il traite de la paix, que le seul chemin viable est celui qu'il appelle, avec une formule extraordinaire, l'identitas electionis. Pour sortir de l'aporie de l'idiotesse ou de l'aliénation du mémoire collective qui définirait tous à la même manière, il faut avoir une identitas electionis, c'est-à-dire une identité qui se fait par élection, parce que nous choisissons ce qui nous rassemble. Donc une manière, si vous voulez, de élire ce que saint Thomas d'Aquin, avec un très bon néologisme, appelle les amicabilia, les choses qui sont faites pour aller ensemble et pour rester ensemble avec moi, pour devenir mes amis. Identitas electionis, c'est-à-dire le lieu des amicabilia. J'avais le texte latin, si vous voulez, je vous le lis parce que c'est magnifique, mais je vous donne d'abord la traduction française. La paix, nous venons de le dire, implique une double union. L'une qui résulte de l'ordination de nos appétits propres à un seul but, l'autre qui se réalise par l'accord de notre appétit propre avec celui d'autrui. Ces deux unions sont produites par la charité. En réalité, le texte... il dit caritas, donc l'amour réciproque. Et la première, selon que nous aimons Dieu de tout notre cœur, au point de lui rapporter tout, et ainsi tous nos appétits sont unifiés en Dieu. La seconde, parce que, en aimant le prochain comme nous-mêmes, nous voulons l'accomplissement de sa volonté, c'est-à-dire la volonté du prochain, comme de la nôtre. C'est pourquoi Aristote a mis l'identité du choix, identitas electionis, parmi les éléments de l'amitié. Idem vel, idem nol, etc. L'identitas electionis, donc, n'est pas seulement un choix de trait pertinent à ce que nous supposons être notre mêmeté, mais un implere voluntatem proximi, qui nous réunissent mieux à autrui. C'est-à-dire des choix d'élection qui peuvent devenir communs, qui peuvent augmenter le partage communautaire. Il s'agit de choix qui suscitent, en somme, des amicabilia, des éléments capables de faire surgir de meilleures conditions d'unité, d'amitié. Voyez bien que ce que nous éloignons, vous voyez bien que nous nous éloignons considérablement, dans ce cas, de l'idée de justus iudex. Il n'y a plus une réalité supérieure qui va dire ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est nécessaire, mais nous allons plutôt, ou nous nous contentons, d'une equabilitas, ce qui est équiparable, qui peut devenir commun parce que à peu près la même distribution, le même poids, la même valeur. Et pour conclure, vraiment, les conditions de pertinence qui autorisent la translation, donc le passage au presque le même, comme Umberto Eco le disait, suppose une double mêmeté. La première, par rapport au signe qui signale sept choses dans l'espace. Donc, il faut utiliser des mots qui ne soient pas impertinents. Mais, parenthèse, qui va juger de la pertinence. Autre question que Umberto Eco avait abordée. Deux, il faut qu'il y ait aussi une mêmeté possible par rapport aux destinataires potentiels qui reçoivent ces signes dans le temps. Comme Voltaire le disait, non seulement nous changeons, mais les mots aussi changent. Donc on ne peut pas dire une seule fois que l'équivalent ou l'équivalence est celle-ci. Michel Butor, nous l'avons souvent évoqué dans nos cours, le disait « anno etati sue ». Si je veux dire que je fais un portrait de tel personnage, il faut que j'ajoute « anno etati sue ». Il faut que j'ajoute « j'ai fait ce portrait de tel personnage à cet âge-là ». Quand il avait 18 ans, quand il avait 35 ans. Parce qu'il n'est plus le même. C'est la question presque insoluble des autoportraits de Rembrandt, qui sentait avec beaucoup d'angoisse ce moment qui n'est jamais de la vérité. Et donc il continuait de travailler ses autoportraits. Dans ces conditions, le champ de pertinence ainsi défini est plutôt restreint, il faut l'avouer, et pourrait, au fond, se limiter à l'allusion. C'est trop tard maintenant, il n'y a plus que 10 minutes, mais j'étais incertain s'il donnait comme titre « De la nécessité de l'allusion ». Parce que s'il n'y a pas d'allusion, on ne peut pas même pas savoir s'il y a de métaphore. Si une allusion n'est pas perçue, n'est pas évidente, cela signifie que les traits communs qui scellent une présupposition sous-jacente à la transposition métaphorique ne sont plus reconnaissables par l'auditeur ou le destinataire. Et la métaphore en question n'est plus un aliter, autrement dit, mais un aliud, une autre chose dans sa discontinuité. C'est très délicat. On ne peut pas dire indifféremment aliter et aliud. Si on dit aliud, c'est parce que la transposition n'a plus de pont et on est désormais dans une identité, dans une réalité autre. D'où la difficulté. Je reviens au commencement, j'ai commencé par judicium judicare, la difficulté de sortir du justum judicium judicare dans sa forme porteuse d'une théologie, téléologie. Je fais ce jugement parce que, en réalité, j'attends le jugement final, et quel serait ce jugement que je fais maintenant, la miséricorde. Parce que je n'ai pas le droit, comme je ne suis pas le justus iudex, d'anticiper sur le jugement final. Tous ces traités que je ne vous ai pas lus insistent sur l'orgueil, le vain orgueil de celui qui juge en privant Dieu de sa spécificité d'être le seul justus iudex. Ou alors, nous devons remonter, je l'ai évoqué au commencement, au crino dicaion, à savoir chercher à distinguer ce qui pourrait être exhibé grâce à ou par une certaine évidence. Je fais un choix de ce qui pourrait paraître le plus évident. C'est ce qui lit si profondément la tribune, le tribunal, le théâtre, Etcheum, encore une fois, ou alors la tribune de l'éloge de la folie d'Erasme. Je comprends néanmoins, non seulement je comprends, mais moi-même j'adhère à cela, notre besoin de métaphores, le désir de nous installer dans un territoire analogique. C'est plus commode et plus rassurant. Si bien étudié par Arthur Lovejoy, la grande chaîne de l'être. Finalement, nous sommes dans une chaîne où les analogies de proximité se multiplient à tel point que finalement, on peut aller d'un bout à l'autre du monde sans changer de paradigme. C'est ce qui fascinait Blumenberg, paradigme pour une métaphorologie. Il essayait de trouver les métaphores qui n'auraient pas un degré zéro, les concepts qu'on peut dire que par métaphore, parce que alors là, on serait dans la certitude que notre monde n'est qu'un monde analogique. C'est fascinant, c'est magnifique, hein, toute la tradition de la Renaissance, Giordano Bruno, etc., a travaillé sur cette continuité analogique. Ce serait beau. Et pour conclure vraiment, on pourrait aussi avoir une autre solution que j'avais annoncée comme première, mais je l'ai mise à la fin, c'est-à-dire la petite remarque de saint Augustin dans le traité 30 sur l'évangile de Jean. Il a 124 sermons sur l'évangile de Jean, parce qu'il était fasciné par ce texte si admirable, et pour chacune des péricopes, il fait un traité. Et quand il arrive au chapitre 7, quand Saint Jean dit « Nolite judicare secundum facem », c'est-à-dire en voyant simplement les apparences, « Sed justum judicium judicate », il suggère « Qui est qui non judicat personaliter ?» Qui est celui qui ne juge pas selon les apparences, qui diligit equaliter? Celui qui aime de la même manière tout le monde, qui diligiter equaliter. Et là, nous revenons aux amicabilia, bien sûr, de saint Thomas d'Aquin, mais déjà évoqué par le Polycraticus, donc un peu avant, par Johannes Sarsbergiensis, c'est-à-dire Jean de Salisbury, qui présente la chose d'une manière encore plus fine. Porro equitas, ust iuris periti asserunt, rerum conveniencia est. C'est la conjonction, l'appartenance réciproque des choses, que cumta coequiparat ratione. Et in paribus rebus, et dans des choses qui sont semblables, paria jura desiderat, in omnes equabilis, tribuens unicuique quod sum est. Merveilleux, mais dès que nous passons aux traductions, j'ai pris les deux traductions existantes en français, ben, ça change déjà. La difficulté de l'équitas dans les mots mêmes. Voilà les deux traductions. L'équité est l'harmonie du monde, hein, ce monde dans sa pleine analogie. Et équilibre cette harmonie, équilibre et accorde tous les éléments d'une manière rationnelle. Traduction un peu libre. L'autre, qui apparemment est plus littéral, pose également des problèmes. L'équité est l'harmonie des choses qui met tout de façon rationnelle au même niveau. Ce n'est pas la même définition, qui met tout de façon rationnelle au même niveau. Et pour des choses égales, réclame des droits égaux. Bon, on pourrait souscrire à la rigueur, mais qui nous garantit qui met tout de façon rationnelle au même niveau et pour des choses égales réclame des droits égaux. Cette equitas equabilis nous conduirait donc jusqu'au très beau livre de Jean Starobinski, Action et réaction, vie et aventure d'un couple. Et c'est le passage constant d'une action à la réaction, d'abord chimique, pour essayer de trouver un équilibre entre les pôles, une tension qui devienne égalitaire, pour ainsi dire, entre les deux pôles. Et ce livre merveilleux de Jean Starobinski passe de la chimie à la vie sociale, à la valeur même des mots qui doivent être équitables et, si possible, comparables. À ce va-et-vient éternel d'un extrême à l'autre en cherchant l'equa egalitas d'une mer calme et peut-être vainement, comme le souligne, je l'ai déjà dit, Italo Calvino, pour la lecture d'une onde. Est-ce que nous devons conclure sur cette aporie ? Alors, j'ai essayé de sortir de l'aporie, comme on sort de la métaphore. Et je trouvais un passage merveilleux de Rabanus Maurus, vous savez, celui qui faisait les poèmes rophaliques, des poèmes en forme de personne, un homme extrêmement distingué, subtil, fin, qui écrit, d'une manière surprenante d'ailleurs, dans son allégorie In Universam Sacram Scripturam, nous sommes au IXe siècle, livre premier, Judicium est discretio. Judicium est discretio. Qui revient à ce crino que nous avions vu dans le texte grec. Hein? Discretio. Le cribrum, hein? Le tamis. Judicium est discretium ut in Isaia judicate inter me et vineam meam. Id est discernite inter me et plebem meam. Ah, monsieur, oui, tiens, voilà, j'aimais déjà Rabban et maintenant je souscris. Bravo, c'est comme ça qu'il faut aller vers une laïcisation conceptuelle des termes et trouver la discrétion de la vie sociale. Seulement, Rabban était fort et il a fait cette merveilleuse distinction. Mais malheureusement, le texte biblique est bien autre. Et je vous le lis en français parce que c'est 17h28, mais le latin est superbe. Là, c'est vrai qu'il faut discerner, mais je vous dis quel est le passage. Maintenant, donc, habitants de Jérusalem, gens de Juda, soyez les juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'aurais pas fait ? C'est Yahvé qui parle. Pourquoi, alors que j'attendais de bons raisins, n'a-t-elle produit que de fruits infects ? Maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. C'est bien autre chose que la discrétion que Rabban voulait. Hein? Je conclue vraiment. La justice, réellement, n'est pas une affaire humaine. Le subtil Rabban a magnifiquement mis en œuvre sa discrétion, mais le texte du prophète reste dans sa désolation radicale. Là aussi, laissez-moi juste ce vers latin qui est formidable. Et expectavi ut faceret judicium. voyez, on est toujours dans ce rythme constant. Et expectavi ut facerem judicium, et ecce iniquitas. Et expectavi justitiam, et ecce clarum. J'attendais d'eux la droiture, et ce n'est qu'en justice. J'attendais d'eux la justice, et ce ne sont que des cris de détresse. Voilà, nous sommes toujours face à une porte que nous ne savons pas franchir. Et expectavi ut facerem judicium et non fecit. C'est tout le sens profond de l'apologue de Kafka, qui venait d'une très profonde tradition juive. C'est, sa porte est la porte du texte d'Isaïe. Et expectavi. J'ai attendu, il n'a pas fait, il n'est et conscient, il n'est pas entré non plus. Hein? Cet apport, il nous rentre. Voilà, je termine.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.